Kilo du 12 novembre. Je me permettrai juste de rappeler le principe du Café Philo pour ceux qui sont là pour la première fois. Donc, le Café Philo ne propose pas de thématique, c'est vous qui allez proposer des sujets et l'Assemblée votera pour les sujets. Donc, vous pouvez voter pour autant de sujets qui auront été proposés que vous le souhaitez et le sujet qui aura remporté le plus de votes sera le sujet qui sera traité ce soir. Donc, du coup, on fonctionne en deux temps. Le premier temps, on propose les sujets. Donc, vous pouvez proposer tous les sujets qu'il vous plairait de voir traités ce soir. Et dans un second temps, on passe au vote. Nous avons une secrétaire qui notera donc vos propositions et qui les rappellera ensuite au moment du vote où chaque sujet sera donc soumis à votre décision. Voilà. Ensuite, la parole est libre, il vous suffit juste de la demander, donc de lever la main pour qu'on vous passe le micro. Le micro a une double utilité. Première utilité, tout le monde entend ce qui se dit. Seconde utilité, le Café Philo est enregistré. Ce qui fait que si vous souhaitez avoir un enregistrement de ce Café Philo-là ou des autres Cafés Philo, on a des archives maintenant assez conséquentes, il vous suffit simplement d'écrire à Philomania et on peut vous communiquer donc le lien pour avoir l'enregistrement. Voilà. Autre point, les micros, des fois, peuvent paraître dysfonctionnés. Donc, le micro se doit d'être mis à l'horizontale et on parle très près du micro. Sinon, des fois, ça marche moins bien, voire ça marche mal. Autre point aussi, comme la parole doit être distribuée, il est vrai que ceux qui lèvent la main pour la première fois sont toujours privilégiés par rapport à ceux qui ont pu déjà avoir pris la parole. Voilà, de telle sorte que tout le monde puisse participer. Donc l'horaire du Café Philo, c'est 19h-20h30. À la fin du Café Philo, donc en règle générale, on termine par une conclusion que je ferai moi-même en vue de synthétiser l'ensemble des débats qui ont été les nôtres. Le Philomania offre des Cafés Philo, mais offre aussi des conférences. Donc, pour les 10 ans de Philomania, il y a tout un ensemble de conférences extrêmement intéressantes qui vous sont offertes en mars. Vous avez des flyers à l'entrée, vous avez des flyers donc sur le bar où toutes les dates et une espèce de synopsis de chacune des conférences vous est proposée. Et enfin, pour terminer, Philomania propose le pot de l'amitié. Donc voilà, nous pouvons rester, nous pouvons continuer à discuter après 20h30, si vous le désirez. Voilà. Je vous propose maintenant de passer donc à la proposition des sujets. Donc là, pareillement, le micro va circuler. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas.
Juste un petit rappel pour le confort de tous. On a des micros qui marchent plus ou moins bien et ils marchent beaucoup mieux lorsqu'on met le micro à l'horizontale.
Alors, l'État nous doit-il quelque chose ?
D'accord. L'État nous doit-il quelque chose ? Premier sujet. Second.
Comment fait-on pour avoir une cohésion sociale ? Quand chacun évolue de façon de plus en plus privée, au point d'en oublier la solidarité.
Donc, comment, quel est le...
Comment fait-on pour avoir une cohésion sociale?
D'accord.
Quand chacun évolue de façon de plus en plus privée, au point d'en oublier la solidarité.
D'accord. Ok.
Qu'est-ce que je note là
Comment une cohésion sociale est-elle possible sans solidarité? Si on voulait. Voilà. Comment une cohésion sociale est-elle possible sans solidarité?
Connaît-on vraiment l'autre?
Connaît-on vraiment l'autre? Oui.
question aussi simple, j'ai dit philosophie parce que je n'en ai jamais fait. Mais comment une société peut-elle accepter l'inacceptable ?
D'accord. Comment une société peut-elle accepter l'inacceptable ? Oui.
Bonsoir. Que pensez-vous de cette phrase de Jean-Luc Godard ? La contradiction peut être amusante, on n'a pas besoin de détruire l'autre pour autant.
D'accord. Donc la contradiction peut être amusante. Virgule. On n'a pas besoin de détruire l'autre pour autant. Citation donc de Jean-Luc Godard. Oui.
Dans un état de droit, peut-il exister une raison d'état légitime ?
Dans un état de droit, peut-il exister une raison de droit légitime ? À une raison d'État légitime. Oui. D'autres propositions ? Oui, madame.
C'est droit ou pas droit ?
Pardon ?
Droit ou passe droit ?
Droit ou passe droit ? Passe droit. Oui, d'accord. Droit ou passe droit ? Oui. Notre proposition ? Non, ça nous fait combien de propositions ?
Sept.
Donc, est-ce que... tu peux nous les rappeler ?
Alors, la première, l'État nous doit-il quelque chose ? Deuxième, comment une cohésion sociale est-elle possible sans solidarité ? Troisième, connaît-on vraiment l'autre ? Quatrième, comment une société peut-elle accepter l'inacceptable ? Cinquième, la contradiction peut être amusante, on n'a pas besoin de détruire l'autre pour autant. Sixième, dans un état de droit, peut-il exister une raison d'état légitime ? Septième, droit ou passe droit ?
Et donc, maintenant on va passer au vote. Donc je vous rappelle que vous pouvez voter autant de fois que vous le désirez. Donc, premier sujet.
Alors, l'État nous doit-il quelque chose ?
L'État nous doit-il quelque chose ? L'État nous doit-il quelque chose ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Comment une cohésion sociale est-elle possible sans solidarité ?
Comment une cohésion sociale est-elle possible sans solidarité ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
Connaît-on vraiment l'autre ?
Connaît-on vraiment l'autre ? Connaît-on vraiment l'autre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Comment une société peut-elle accepter l'inacceptable ?
Comment une société peut-elle accepter l'inacceptable ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
Alors, la contradiction peut être amusante, on n'a pas besoin de détruire l'autre pour autant.
La contradiction peut être amusante, on n'a pas besoin de détruire l'autre pour autant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Alors ensuite, dans un état de droit, peut-il exister une raison d'état légitime ?
Dans un état de droit, peut-il exister une raison d'état légitime ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Droit ou passe droit ?
Droit ou passe droit ? Droit ou passe droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Comment une société peut-elle accepter l'inacceptable ? 45.
Voilà. Donc, comment une société peut-elle accepter l'inacceptable ? Madame, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots la raison d'une telle interrogation ? On va vous passer un micro. C'est madame. Hein ? Voilà.
Bien, c'est dans le monde dans lequel on vit. Je m'étonne toujours qu'il n'y ait pas plus de manifestations et pas plus de soulèvements des gens, parce que vraiment, il y a des choses qui, pour moi, sont inacceptables et que la société accepte. Mmh. Ne serait-ce que le traitement qui a été fait pour le Covid. Tout le monde, dans le bon petit soldat, était se faire injecter quelque chose dont on ne connaissait pas les effets de nuisance, hein, parce qu'on nous dit toujours qu'un produit, c'est magnifique. Mais bon, maintenant, les choses commencent à apparaître. Et pourquoi encore les gens vont encore se faire injecter, quoi. Je me pose des questions. Maintenant... je me demande aussi pourquoi, quand un État, la sortie d'une guerre, donc un État exsangue comme la France, promulgue des lois sociales qui protègent tout le monde, et que depuis les lois en 47, les différents gouvernements se sont ingéniés à détricoter tout ça, et pourquoi les gens acceptent. Voilà, je me pose des questions. Mmh. Voilà, il faudra avoir des réponses si quelqu'un peut m'en donner.
D'accord. Alors, pourquoi accepte-t-on l'inacceptable ? Oui.
Merci. L'inacceptable n'est peut-être pas la même chose pour tout le monde. En tout cas, le sujet tel qu'il était présenté ne me faisait pas penser exactement aux mêmes réflexions que celles que madame a exprimées. Mm-hmm. J'avais d'autres idées en tête. Par exemple, je pensais à Paul Watson et sa lutte contre... pour la protection des baleines et ce qu'il risque actuellement. Mmh. Voilà, c'était un exemple qui me paraissait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris la proposition.
Mais du coup, dans le cas de Paul Watson, pour vous, il n'accepte pas l'inacceptable ou
Non, c'est pourquoi nous, collectivement, on n'arrive pas à faire en sorte que ce qu'il risque de subir risque de lui arriver, alors que c'est complètement inacceptable.
D'accord. Ok. Oui.
Mmh. Oui. Hop, ici.
C'est bon. Ah, il y avait quelqu'un avant ?
Oui. Non, ça ne marche pas. Ah, là, ça marche.
Là, ça marche un petit peu.
Là, ça marche mieux, oui.
Question 2. Qu'est-ce qui... La notion d'inacceptable. Qu'est-ce que ça serait, l'inacceptable ? Je pense que différentes personnes, différentes personnes, le curseur est différent selon les personnes. Donc, ça serait, je pense, aussi une phase à définir cette notion. Et après, il y aurait d'autres notions comme l'ignorance. Qui pourrait nous faire accepter l'inacceptable ? Et aussi le. Comment on peut appeler ça, justement la cohésion sociale, qui au nom de la cohésion sociale nous ferait accepter des choses que notre conscient aurait du mal à accepter.
Oui, moi aussi, je pense qu'il faut définir l'inacceptable. Je me disais, le sujet, c'est comment une société peut-elle accepter l'inacceptable ? Est-ce que c'est vraiment une acceptation de la société ou est-ce que c'est une acceptation d'un conglomérat d'individus ? Enfin, est-ce que malgré tout, l'acceptable ou l'inacceptable, ce n'est pas une affaire personnelle et qui serait par rapport au droit ou par rapport à la morale ?
Mm-hmm. Ouais, ouais. Alors c'est vrai que dans le sujet, il y a une contradiction interne, hein. C'est-à-dire comment une société peut-elle accepter l'inacceptable ? Il semblerait bien qu'il y ait là quelque chose de totalement antinomique. Et pourtant, on reconnaît que c'est inacceptable. Donc inacceptable, moi je vais le définir très simplement. Inacceptable, c'est ce qui ne doit pas ou ne peut pas être accepté. Donc, comment accepter ce que, par définition, on ne devrait pas accepter ? Pour moi, le cœur du sujet, il est là. Donc, c'est vrai que ça peut se poser au niveau collectif. Il y a des sociétés qui... Enfin, dans l'œuvre sociale, peut accepter l'inacceptable. L'exemple du Covid, la société dont nous faisons partie et que nous formons, va aller se faire vacciner en masse. Et puis, au niveau individuel aussi, on ne réagit pas, en fait. C'est ce que j'ai entendu dans votre propos, hein. On ne va pas manifester, on ne réagit pas, les choses nous sont imposées. Et en fait, l'acceptation, c'est de la non-réaction. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est de la soumission ? Ce serait intéressant de le travailler. Voilà. Hein. Ouais. Mais voilà, on prend conscience qu'il y a des choses qui ne devraient pas être, et pourtant on les laisse être. Qu'est-ce qui fait que, collectivement ou individuellement, et peut-être que les deux sont liés, en fait, hein, ils ne sont peut-être pas si distincts que ça, en fait, parce que le collectif, ben, c'est bien nous qui le constituons, nous faisons partie du collectif, nous le constituons, et il n'existe que par les actions que nous pouvons entreprendre ensemble. Donc, ces actions, on ne les fait pas aussi bien d'un point de vue individuel que d'un point de vue collectif. Pourquoi ? Est-ce qu'on acceptait moins l'inacceptable avant ? Et si c'est avant, avant quoi ? Qu'est-ce qui a fait que, tout d'un coup, dans nos comportements, quelque chose a changé ?
Par exemple, puisqu'on est 12 novembre et qu'il y a eu le 11 novembre, et puis qui pense que c'est la première guerre, mais il y a eu une deuxième guerre, et pendant la deuxième guerre, il y a eu
peut-être parler plus près du micro. Oui.
Allô, vous m'entendez ?
Voilà,
oui,
on
je veux dire que bon, on a commémoré le 11 novembre hier. C'était la première guerre, il y a eu la deuxième guerre. Et pourquoi certains, la deuxième guerre, tout de suite se sont mis dans la résistance alors que d'autres ont collaboré ? C'est-à-dire, pourquoi il y en a qui n'ont pas accepté ? Pourquoi d'autres ont accepté ? Et c'est ces peu de personnes qui sont rentrées dans la résistance, parce qu'au départ, il y avait très peu de monde. Ils ont quand même mené à la victoire à la fin. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là n'ont pas accepté justement le fait d'être dominés par les Allemands ?
Mm-hmm. De subir l'invasion nazie ? Ouais. Mm-hmm. Oui.
Vous m'entendez ?
Oui, peut-être relever encore un peu le micro.
Est-ce que...
Ouais.
Je vais essayer. Du coup, moi, ça me pose la question du coup, d'acceptation ou non-acceptation. Si, pour savoir si on accepte...
Là, on n'entend plus.
Le micro, il n'est pas... Si, pour savoir si on accepte ou pas...
Est-ce qu'il n'est pas coupé ?
Non, il est...
C'est la technique qui nous lâche aussi parfois.
J'accepte vraiment pas. Donc, si pour savoir si on accepte ou pas un événement, si on avait juste à cocher sur une feuille j'accepte ou je n'accepte pas, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui exprimeraient leur non-acceptation d'un événement dramatique ou quoi. Ce coup de l'acceptation, c'est aller en manifestation et avoir une par exemple une milice ou quelque chose qui aurait que ça coûterait à la personne d'exprimer qu'elle n'est pas d'accord, ça change qui la donne en fait. Donc, de quelle manière on peut exprimer ou pas d'acceptation, et qu'est-ce qu'il y a en face qui fait qu'on... Voilà, si il y a des personnes qui ont collaboré, sont fait arrêter et torturer, bon, bah, ça peut peut-être moins donner envie à d'autres de collaborer, enfin non, pas de collaborer, excusez-moi, de résister. Mm-hmm. Je suis fatiguée ce soir. Mais voilà, donc c'est pas anodin d'accepter ou pas, et c'est peut-être pas parce qu'on ne fait rien qu'on est forcément d'accord. Donc je pense qu'il y a une nuance là-dessus.
Mm-hmm. Ouais.
Non, non plus. Sur la droite, sur la gauche. Est-ce qu'il est allumé ? Oui. Non. Y a-t-il un technicien dans la salle ? Non. Bon, ben, on va essayer de parler très fort alors.
Bon, alors. Là, ici,
ah,
ça
y est. Voilà.
C'est peut-être pas l'horizontale qui fallait mettre.
Ouais, en fait, la verticale.
Ça rejoint un peu ce qui a été dit précédemment, mais c'est une notion à laquelle il faut penser, je pense, par rapport à ce qu'on accepte. C'est l'indifférence qu'on peut avoir vis-à-vis d'un enjeu, parce que, en fait, soit il ne nous concerne pas, où il ne nous affecte pas, à la fois en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Moi, dans le cadre de mon travail, quelque chose sur laquelle je désespère de voir des réactions, c'est sur le dérèglement climatique. Et on voit qu'en fait, en termes d'action, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau politique, en termes de politique à mettre en œuvre, il y a une certaine inaction, un manque d'action. Et en fait, pour beaucoup, ça va être parce qu'il ne sent pas soi-même dans sa vie les effets de ce dérèglement climatique, parce qu'il est dans une situation où c'est quelque chose qui se fait de façon progressive, et on se dit, soit ça ne m'affecte pas, soit ce n'est pas mon problème, et y aura bien d'autres gens qui viendront après moi le déluge, hein, qui pourront s'en charger. Donc en fait, on accepte parce qu'on est indifférent.
Ouais.
On n'est pas touché, et c'est aussi d'ailleurs dans le cadre d'un engagement dans la résistance à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Tant qu'on pouvait vivre sous la férule nazie, parce qu'en fait on n'était pas tant affecté que ça, on n'allait pas s'opposer au régime nazi. Mais quand on perdait un proche au régime nazi, là on pouvait avoir ce déclic qui faisait qu'on s'engageait parce qu'on avait été affecté. Et on n'était plus indifférent.
Donc accepter, en fait on travaille sur la notion d'accepter ou d'acceptation. Si accepter c'est adhérer, ben il est vrai que la question n'est pas tant de savoir si on adhère ou si on n'adhère pas. Il y a une troisième option, une alternative, quelle indifférence en fait. Voilà. Oui. Oui, je pense, oui.
Moi, je voulais revenir sur le fait que tout le monde n'était pas forcément en capacité de ne pas accepter ce qui se passe par manque de connaissances, par manque de moyens intellectuels, matériels, financiers, tout ce qu'on peut imaginer comme frein à s'opposer à quelque chose. C'est aussi une notion, je pense, qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que, typiquement, les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, il y a eu des manifestations, mais concrètement, en fait, il y a une loi qui a été sortie. À un moment donné, on ne peut pas être hors la loi en permanence. Il y en a qui ont manifesté. Sur Paul Watson, il y a des manifestations, mais après, concrètement, tout le monde n'est pas en capacité non plus d'aller libérer de prison pratico-pratique. Il y a des enjeux politiques qui nous dépassent, je pense, derrière tout ça. Donc on n'a pas les connaissances non plus. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on est parfois forcé d'accepter des choses à contre-cœur parce qu'on n'est pas en capacité de faire autrement.
Si je disais qu'on n'a pas toujours la puissance d'agir et que le sentiment d'impuissance, voilà, tout à fait, on peut se sentir totalement impuissant, reconnaître que c'est inacceptable, mais être confronté à notre propre sentiment d'impuissance. Que faire, puis-je faire, et remarquer que tel n'est pas toujours le cas, effectivement. Ouais. Mm-hmm.
Oui.
Il
y a une notion qui n'a pas été évoquée, me semble-t-il, et qui me paraît importante, c'est la notion de contexte ou de relativité. Un exemple, il y a une soixantaine d'années, un avion s'est crashé en Amérique du Sud, dans les Andes, avec une équipe de rugby. Pour survivre, ils ont pratiqué le cannibalisme. Aujourd'hui, ici à Janzé, 2024, en sécurité, je ne peux imaginer le cannibalisme comme quelque chose d'acceptable. Donc, pour moi, l'environnement
dans lequel on se situe,
dans le temps, ça varie. Ce que les hommes de caverne acceptaient n'est pas ce que nous sommes à même d'accepter. Et je me trouve ici, à Orléans. Si j'étais en Ukraine, si j'étais au fin fond de la Chine en tant que Ouïghour, j'aurais sans doute une perception de l'acceptable et de l'inacceptable très différente.
Donc l'idée serait que l'inacceptable n'est pas absolu, quoi. On ne peut pas dire, telle chose est inacceptable, donc effectivement, on doit se révolter contre.
Regardez, ouais. Il devrait fonctionner.
Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit précédemment, mais je rappelle que l'inacceptable, dans l'absolu, n'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Mm-hmm, c'est ça. Et ça, c'est important quand même aussi de l'avoir en tête. On n'a pas forcément le même degré, mais je rejoins aussi le fait que quelque chose qu'on accepte plus facilement quelque chose qui ne nous touche pas de près. Humainement, près géographiquement, près en termes de conséquences. Et c'est le cas notamment des guerres, c'est le cas du réchauffement climatique, si on ne voit pas les effets sur soi, sur ses proches. Et que y a une forme aussi d'égoïsme qui fait que, en dehors de la notion d'acceptable ou d'inacceptable moralement, il y a aussi cette notion-là dont on voit qu'elle est assez prégnante dans les réactions des uns et des autres.
Alors, peut-être on pourrait se poser la question si l'inacceptable, c'est toujours moral. Parce que, par exemple, sur le changement climatique, en fait, ce qui peut paraître comme inacceptable pour certains, c'est-à-dire le fait de ne pas agir contre, peut relever pour d'autres du doute. En fait, de l'ignorance, d'un manque de savoir, d'une volonté d'être encore plus convaincu par des arguments rationnels. Et tant que cette certitude n'est pas là, effectivement, ne pas vouloir agir dans la précipitation, mais prendre le temps de la réflexion. Donc du coup, effectivement, le degré d'inacceptabilité ne serait pas le même pour tout le monde et ne toucherait pas les mêmes domaines. Oui.
Je pense que l'acceptation collective prévaut ce désir de ne pas être individuel. Les commémorations de la guerre de 1918,
les majorités de soldats qui sont. Peut-être que certains soldats ne voulaient pas une inscription de cette guerre. C'est pas pratiquement tout le monde
y est parti.
Tout le monde est parti sur cette guerre. Et donc, actuellement, nous, on est en train de l'été. Imaginons que le gouvernement défaite la guerre. Je serais bien en mal de me positionner, voire humainement, je dirais, mais c'est absurde d'aller tuer quelqu'un. Et si tout le monde se lève, qu'est-ce que je fais? Enfin, je pense que malheureusement, je serais comme une petite personne, je prendrais mon sac et je dirais, comme un bon petit mouton.
Alors,
c'est obligé.
Alors, ce qui serait intéressant de dire, c'est aussi comme un bon petit soldat. Parce que, effectivement, si on prend les soldats de la Première Guerre mondiale, une fois que l'état de guerre est déclaré, l'État ne demande pas si on veut ou pas y aller. Il faut y aller. Et ceux qui ne veulent pas y aller, il y a des sanctions très fortes qui sont menées contre eux. Donc, du coup, est-ce que c'est encore réellement une question de choix ? Quand on se souvient qu'à côté de la guerre, des tranchées de la Première Guerre mondiale, vous aviez la guillotine qui était réservée aux déserteurs, ceux qui ne voulaient plus y aller, ça pose vraiment la question du consentement. Voilà. Oui. C'est-à-dire, est-ce que l'inacceptable, on demande qu'il soit accepté ? Non, il est imposé, en fait. Voilà. On pourrait nous faire croire qu'on l'accepte parce que l'État, je reste sur cet exemple, l'État déclare la guerre, donc l'État étant notre représentant, on pourrait dire que c'est le peuple qui décide de déclarer la guerre, mais non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est vrai que dans certaines situations, l'inacceptable, en fait, nous le subissons et en fait, ce n'est pas que nous l'acceptons, c'est que nous le vivons. Parce que derrière, il y a des sanctions extrêmement fortes. Pour revenir sur le cas du Covid, par exemple, certaines personnes ont été contraintes de se faire vacciner, ne serait-ce que pour garder leur emploi. Donc, et oui. Mmh. Oui.
Oui, mais dans ce cas-là, justement, on ne nous demande pas si on accepte ou pas. Du coup, là, c'est bien la société qui accepte l'inacceptable, c'est-à-dire la boucherie, la tuerie, la guerre, c'est la société. L'individu, chacun, si on le prend à son tour, ne l'acceptera pas. Il y a forcément des gens qui ont envie peut-être de tuer quelqu'un, il y a des criminels partout. Mais je pense qu'il y a une différence entre ce qu'une société accepte comme inacceptable. De fait, de déclarer une guerre, si un État déclare une guerre, je pense que les gens qui décrètent la guerre savent très bien que c'est inacceptable pour les individus. Effectivement, les individus n'ont pas le choix, mais dans le fond, les individus ne l'acceptent pas. Pour le Covid, c'est la même chose. Je pense que dans les files d'attente pour les vaccins, il y avait la moitié des gens qui n'avaient pas envie de se faire vacciner et qui trouvaient ça absurde d'être entre deux soldats, pratiquement, pour se mettre dans la file. Donc, je pense qu'il y a une différence. Et comme madame disait, l'acceptable, ça n'est pas la même chose pour tout le monde. Je suis complètement d'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui définit l'inacceptable ? Quel est le degré ? À quel moment quelque chose est inacceptable ? Et pour qui ? Après, c'est une question de... Enfin, je pense qu'il faut faire attention aussi sur les régimes nazis, par exemple, en Allemagne, a imposé aux citoyens de certaines façons de se comporter. La population allemande ne s'est pas majoritairement révoltée, alors que ça durait depuis un moment, les discriminations, etc. Donc... Il y a aussi une espèce de manipulation qui fait qu'on accepte l'inacceptable parce qu'on ne le sait pas, mais aussi parce qu'on ne peut pas agir Et ça ne veut pas dire que dans son fort intérieur, dans ses valeurs morales, humanistes, etc., on accepte. C'est aussi ce qui fait qu'on fait partie d'une société, parce que sinon chacun ferait que ce qu'il veut quand il veut. Et à partir de là, il n'y a plus de société.
Moi, c'était à peu près la même chose sur laquelle je voulais revenir, c'est qu'en fait, quand on dit une société qui accepte l'inacceptable à échelle, enfin, inacceptable à échelle individuelle, c'est le principe d'une société, en fait, c'est qu'elle doit réfléchir au collectif, et que si chacun voit midi à sa porte, on n'avance pas et on ne fait pas société. Donc, à échelle individuelle, on peut décréter que telle mesure, telle réforme, telle décision, ça ne nous convient pas et c'est inacceptable. Mais en fait, à un moment donné, s'il y a des gens qui sont au gouvernement, ils ont été à peu près élus par le peuple, et donc ils sont quand même là pour prendre des décisions collectives pour que la société puisse fonctionner. Sinon, c'est juste ingérable, en fait.
Oui.
En fait, c'était la première partie de mon intervention. Effectivement, ce principe-là, le fait que
ce terme d'acceptation individuelle, on va se trouver forcément en décalage avec d'autres décisions qui ont été prises par nos concitoyens et par le gouvernement, par les représentants qui ont été élus, et on accepte quand même on peut manifester son opposition, on peut manifester d'ailleurs. Dans ce cas, la question des contre-pouvoirs et du pouvoir que l'on a pour manifester notre désaccord, ce refus d'accepter une décision que plusieurs d'entre nous pourraient juger injuste. Et il y a eu des débats là-dessus, par exemple le fameux recours à l'article 49.3 dans les débats parlementaires, manifester. Quand on le fait, qu'il y a des manifestations massives, ça sert à quelque chose. On est écouté. Donc, on peut se dire, d'un côté, une société va contenir une part d'inacceptable pour quelqu'un, mais quelles sont nos façons de changer ce qui est acceptable ou pas ?
Oui, je trouve que la remarque est d'importance. C'est-à-dire, on peut reprocher aux individus que nous sommes de ne pas suffisamment réagir à l'inacceptable. Mais effectivement, si les moyens que nous avons de réagir, notamment la manifestation, nous manifestons, et il peut y avoir des millions d'individus dans la rue, si la raison d'être de cette manifestation n'est pas écoutée de la part du gouvernement, si, en d'autres termes, on manifeste pour rien, du coup, quels moyens avons-nous, effectivement, de faire entendre que ce qui est en train d'être fait ou dit est inacceptable ? C'est vrai. Quels sont nos moyens de nous faire entendre en tant que société, si on oppose la société et l'État, par exemple ? Oui, tout à fait. Mm-hmm.
J'entends par rapport à l'inacceptable et les moyens, je vais rebondir là-dessus, on a un moyen unique et gigantesque en France qui s'appelle le vote.
Et personne ne va voter,
ou si peu de gens. Alors tous les gens, moi que j'entends, les gens qui ne sont pas allés voter, ils devraient se taire et ne rien dire et accepter l'inacceptable qui est proposé par des gens qui sont élus en fait par une minorité. Ils sont élus par une minorité d'entre nous, c'est savamment bien calculé, je pense que c'est comme ça que notre système fonctionne, des 49-3, une apparence de dictature en fait, alors que si les citoyens allaient tous voter, on pourrait peut-être un jour exprimer l'opinion et faire changer les choses. Je suis toujours atterré de voir que en fait, on a un immense pouvoir, une grande liberté en France, n'utilisent pas parce que bon, j'en sens pas concernés ou je sais pas, ils vont pas voter. Moins de 50% des gens votent. C'est triste de voir ça.
Donc là, on est quand même au cœur du processus démocratique.
Ah oui, et on l'utilise pas. Donc après, on peut essayer de manifester, on peut essayer de faire des trucs, on peut dire qu'on aime pas, on peut mettre des affiches. On pourrait commencer par la base qui est de dire je voudrais pas cet élu-là, j'en ai un autre. J'exprime mon point de vue, ça se fait tous les 5 ans. Mmh. Et on devrait tous aller voter comme ça, ça changerait un peu les choses, je pense. Mmh.
Et ce qu'on pourrait dire, c'est que plus nous serions capables de voter, plus nous aurions très certainement aussi des gens qui se présenteraient pour nous représenter.
Nous représenterait, voilà, c'est
exactement.
Ça. Se faire représenter, ça sert à ça. Ouais. Et comme on n'y va pas,
le système se met en place sans nous.
Exactement.
Mm-hmm. Et c'est très pervers.
Enfin, c'est. Désolé, mais mm-hmm. On est un peu abusé comme ça. Et après, on se plaint. On n'est pas content.
Excusez-moi,
peux le rebondir. C'était juste dans la foulée de ça.
On va vous donner un micro.
Oui, je veux lire.
Est-ce qu'on peut... Non, juste après peut-être. Voilà, et puis ensuite c'était vous aurez le micro pour répondre. Oui. Si ça le désire.
Ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans une société de classe, en fait, déjà, enfin, pour mettre ça au milieu de l'église au milieu du village, ça c'est là. Ce qui est décidé en tant que société, c'est le résultat de ce que pense le résultat des décisions de la classe dominante. Les guerres, les intérêts impérialistes, les intérêts économiques, c'est le résultat, c'est pas la volonté de la classe dominée, c'est plus la volonté de la classe dominante. Et du coup, si on veut, on a parlé du vote tout à l'heure, c'est un moyen d'action comme un autre. Moi, je pense à d'autres choses comme la grève. Plein de moyens d'action qui ne fonctionnent pas toujours, si vous pouvez l'admettre. Il y a vraiment, pour renverser cette chose, il y a une notion de rapport de force. Voilà la notion de pouvoir. Et dans notre société, celui qui détient le pouvoir, c'est celui qui détient les ressources matérielles, le capital. Du coup, en fait, même avec un vote, même avec une grève, tant qu'on ne fait pas vraiment pression sur les moyens de subsistance des personnes, on ne peut pas vraiment renverser. On n'a pas vraiment le pouvoir. Quoi. C'est ce que vous voulez dire. Même avec. Imaginons, on vote et il y a un gouvernement de gauche qui est au pouvoir. Pouvoir faire des réformes sociales, pouvoir faire ce genre de choses, si la grande industrie, si l'Union européenne, le FMI ferme la porte, repousse toutes ces réformes, on ne pourra pas non plus. Ce gouvernement gauche ne pourra rien faire. À la fin, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui produit. C'est nous, en fait, c'est les travailleurs. Quoi. C'est l'argent qui domine. Mais en gros, le pouvoir, c'est celui qui détient le travail. Et du coup, si on. Tant qu'il n'y a pas une unité entre toutes ces forces productives, il n'y a pas la possibilité de faire quelque chose. Tant qu'on n'est pas d'accord sur ça aussi. Enfin, par exemple, la question du Covid, on n'était pas tous d'accord dessus. Quoi. Mm-hmm. Il y a d'autres intérêts. Moi, j'aimerais bien pouvoir agir sur ce qui se passe en Palestine. Quoi, mais là encore, on n'est pas encore tous d'accord dessus. Si on n'a pas la conscience qu'ensemble, on peut agir et qu'on peut faire quelque chose, je ne vois pas comment on peut faire vraiment quelque chose. Et après, il y a des moyens, il y a le vote, il y a tout ça, je ne dis pas.
Mais au départ, quand même, constituer une unité, au sein, si j'ai bien compris, déjà des classes sociales, et notamment de la classe sociale des travailleurs. Voilà. Hein. Et déjà définir ce qu'est l'inacceptable pour la condition des travailleurs.
C'est une idée qui a eu lieu, c'est une idée ancienne, c'est l'idée de l'internationale ouvrière, première, deuxième, troisième internationale ouvrière, avec cette idée absolument fabuleuse que si les ouvriers, par exemple, de France ont à lutter pour leurs droits sociaux, c'est pas nécessairement à eux de faire la grève, mais ça peut être aux ouvriers polonais, ça peut être aux ouvriers allemands, c'est-à-dire vraiment de prendre conscience qu'il faut arriver à penser au-delà des frontières et en termes d'unité de classe, c'est-à-dire créer du collectif. Mais je trouve que ça renvoie à un sujet qui a été posé ce soir, c'est-à-dire c'est le problème en fait de la solidarité. Est-ce que pour agir politiquement et qu'il y ait un soulèvement contre l'inacceptable, est-ce qu'il ne faut pas déjà à la base qu'il y ait cette dimension solidaire, cette prise de conscience justement qu'une société c'est pas simplement un individu plus un individu plus un individu, mais c'est d'abord et avant tout une communauté, quelque chose qui se crée en commun et qui s'inscrit dans une solidarité de lutte. Oui, monsieur.
Alors, je ne sais pas si le micro, s'il marche. Alors voilà, dans la continuité de monsieur tout à l'heure, là, je voulais juste proposer un sondage à main levée. Qui vote dans cette salle?
Fabuleux. Merci. Nous sommes de bons élèves.
C'est pour ça qu'on est au café philo. Oh,
voilà. C'est toujours les mêmes.
Il me semble que depuis un moment, on tourne autour du consentement de la décision. Or, le problème, me semble-t-il, c'est doit-on consentir quand la décision est prise ? Il me semble que c'est toute la phase de préparation de la décision qui nécessite information. Et que, effectivement, connaître l'objectif ou les objectifs poursuivis par telle décision. Souvent, on entend une décision, on n'est pas forcément informé de la démarche qui... comprendre les éléments du contexte de cette décision. Est-ce qu'on a effectivement les informations suffisantes? Est-ce qu'on peut, et je veux dire, peut-on, se trouve-t-on effectivement dans une situation de consentement, et je dis bien pas d'acceptation d'ailleurs.
Oui, de consentement.
Mais de consentement, c'est-à-dire cette décision ne me plaît pas, mais à la limite, je comprends pourquoi elle est prise.
Oui.
Et dispose-t-on des informations permettant effectivement de se retrouver dans cette situation? Je pense que le plus souvent, nous avons à subir des décisions prises et à se situer après la décision en tant qu'individu, et là, il n'est plus question de consentement, c'est on l'accepte ou on la refuse. Et le plus souvent, la pression ou le pouvoir est tel qu'on la subit.
D'accord. Donc on aurait, on serait pas suffisamment informé pour pouvoir effectivement consentir ou non, en fait. Oui.
La parole au monsieur. Je propose que les personnes qui veulent prendre la parole ensuite lèvent la main, parce qu'il y en a pas mal.
Oui, il y en a pas mal. Oui.
Okay. Dans l'ordre. On va essayer.
Il faut surtout pas oublier ce que tu as
dit. Oui.
Je vous donne après.
Non. Oui, je pense que... Voilà.
Oui, par rapport à l'inacceptable, donc, vous parlez d'ignorant. De toute façon, la clé, c'est la solidarité, vous avez raison. Soit je mets du côté du peuple juif et mes enfants ont été massacrés, donc c'est quoi le dossier, ou je me mets du côté palestinien et mes enfants ont été là. Ainsi, l'autre fois, j'ai vu un extrait par hasard du film de Napoléon. C'était comme ça, mais c'est juste une boucherie, c'est impensable. Donc ça, à la lettre, quand j'ai vu la scène, je dis... explicitement Napoléon, parce que ici c'est un héros, bon, c'est juste un cauchemar. C'est un cauchemar. On voit la guerre, c'est un cauchemar. Je ne suis pas tombé dans le piège. Ah, Napoléon, quel grand stratège. Ok, d'accord. Mais c'est juste incroyable. Cette scène, elle est incroyable. Bien. On a les penseurs pour ça, vous n'avez pas l'ignorance. On a René Girard qui dit clairement, Napoléon est le premier qui a inventé la guerre des nations. Ce qu'il a fait sur cette terre, c'est un cauchemar. Point barre. Ok, c'est pas Hitler, mais... c'est bon, quoi. Et dans les dossiers Staline et tout ça. Bon, ok, Macron va voir Napoléon. C'est juste une once qui a fait ce type-là. Il a le premier fait la guerre des nations. Un peu. Alors, pour revenir à tout ça, moi j'ai écouté, et pourtant ce n'est pas ma confession, mais j'aime être ouvert sur le monde, un rabbin très intéressant. Et il disait ceci, il dit, plutôt que vous demandez ce qui ne va pas dans le monde, il n'y a pas longtemps j'ai entendu ça, demandez-vous si vous allez bien. Parce qu'il y a de quoi ne pas passer une bonne soirée avec tout ça. Ah, la Palestine. C'est vrai.
Oui.
On est un peu sensible, je dirais, comme moi. On va avoir l'avis de Finkielkraut, l'avis de Michel Onfray, ça ne cesse pas. Donc moi, j'ai coupé tout ça. Et ce rabbin dit ceci. Plutôt que de demander comment va le monde, demandez-vous si vous, vous allez bien. Et si vous, vous allez bien, peut-être que le monde ira
mieux.
Parce que moi, j'évite les conflits que je vois dans ma famille. La Palestine, ils ne sont pas de ça. Je ne veux pas réagir. Je me l'interdis. Et Trump et machin, parce que, encore une fois, ça fait des conflits en plus familiaux, je ne veux pas tomber dans cette histoire. Donc il y a là un moment où c'est vrai que ça nous dépasse, et que je vais faire, moi, Palestine, je ne sais quoi, ou Napoléon, qui est pour moi clairement une ordure, bien, enfin, voilà, il a peut-être un peu de civil, mais enfin, c'est un malade, ça serait un killer, ce type-là, très bien. Ce que je veux dire avec lui ou d'autres, hein, je ne peux rien faire, je ne parle pas de Hitler, tout ça nous dépasse beaucoup. Donc il y a un moment où moi, qui suis dans ce monde, donc face à l'inacceptable, je ne parle pas des abattoirs, je fais moins un travail personnel. Ainsi, vous me parlez des madeleines, des baleines.
Le Proust.
Je suis en train de passer de 5% de moi en mode végétarien. Je suis pas dans le radicalisme. Et ça ne me dérange pas si quelqu'un mange un poulet devant moi. Mais je suis en train de faire attention à ça. Le tri, vous voyez, sélectif, ça y est, je fais depuis 5 ans. Donc, moi, à mon niveau, j'essaye d'avoir une vie, moi tout seul, en phase avec, je dirais, l'humanité. C'est des grands mots, mais on va dire, c'est de solidarité. Sans aller manifester, sans aller faire des grands discours, de moi-même, déjà, d'être bien dans ce monde, et d'avoir des actions à mon niveau qui soient, vous voyez, un peu en phase avec, en étant plus humain.
Oui, d'accord. Est-ce qu'on pourrait dire en phase avec des valeurs?
Oui.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, je pense que j'avais, si je me rappelle, deux idées un peu différentes. Déjà, de noter qu'effectivement, cette question ne se pose pas forcément au niveau de notre société, enfin de notre nation. Mais il y a eu l'exemple tout à l'heure de l'international, mais il y en a bien d'autres. Le problème aussi de l'écologie, des baleines, etc. Donc, je trouve que c'est important, effectivement, de ne pas raisonner simplement à notre petit niveau, parce que justement, je le disais tout à l'heure, le fait d'être proche humainement, géographiquement, de ce qui est acceptable et surtout de ce qui ne l'est pas, nous rend plus ou moins réactifs. Quand ça ne nous touche pas personnellement, quand on ne voit pas les choses, quand on ne les entend pas, on y est beaucoup moins sensible. C'est pour ça que je pense que la question devrait être posée vraiment à l'échelle de la planète, enfin cette question-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois. Et puis, sinon aussi, il y a aussi l'idée de la solidarité ou le fait que je reprends l'idée, alors je ne suis pas du tout sûre de moi, mais c'est une thèse. Le Covid fait aussi penser à la question plus générale du vaccin. Et en fait, le vaccin... c'est vrai que c'est quelque chose que certains contestent, d'une manière générale, que ce soit celui contre le Covid ou d'autres. Et en fait, l'efficacité du vaccin est prouvée à l'échelle, collective. Et par contre, il y a des échecs, entre guillemets, individuels, où il y a des ratés, où il y a des accidents individuels. Donc c'est là aussi où je ferai le rapprochement entre... acceptable, inacceptable, ce qui est bon pour la société au sens large, la société pouvant être plus large que la nation, et ce qui peut être acceptable à titre individuel, en fait, enfin, au niveau de l'individu, ce qui peut être tout à fait différent. Enfin, ce qui peut être différent, en tout cas créer un conflit de loyauté. Et je prends cet exemple de vaccin, encore une fois, pour dire... Moi, je n'ai pas de réponse sur le sujet, mais je connais connaître un certain nombre d'éléments sur ce sujet. voilà. Oui.
Oui, il me semble. Oui.
C'est justement, je voulais rebondir sur le vaccin, c'est pour ça que je voulais tout de suite enchaîner. Parce que alors, je pense que ce que je vais dire, ça va peut-être être inacceptable pour certaines personnes. Mais moi, curieusement, j'avais très peur au début, très peur pour ma famille. Et tout ce que j'attendais, justement, c'est que... J'attendais le vaccin, quoi, en fait. Donc, c'était... Ils ont été très vite.
Ouais.
Et à un moment donné, se faire vacciner, mais que ce soit pour le Covid ou pour n'importe quoi... Je pense que justement, c'est faire solidarité. Parce qu'en fait, le choix politique, il est-ce qu'on s'ouvre des milliers de personnes? Et puis effectivement, moi j'ai une sœur qui a la sclérose en plaques. C'est pour dire que je suis touchée de près par la maladie. Mais effectivement, peut-être qu'il y avait des vaccins ou des gens vont déclencher, peut-être au même moment, ou peut-être que ça va être à cause des vaccins. Mais il y a une balance entre, en fait,
risque et puis santé collective,
en fait. Et puis bah moi aussi quand j'étais à la fois j'étais contente d'avoir le vaccin, mais j'avoue que quand j'ai été me faire vacciner, d'une manière très égoïste, je me disais waouh, comment je vais réagir quoi avec mes antécédents familiaux, j'en passe et des meilleurs, mais il y a quand même cette forme de solidarité. Et puis ça j'enchaîne en disant dans ces cas-là, est-ce qu'on doit imposer aux gens ou leur laisser libre choix? Ben, je pense qu'à un moment, on fait société. Moi, quand j'étais petite, on était toutes vaccinées du BCG. Quoi. Nos parents n'allaient pas dire « Ouais, aïe, aïe, le BCG ». Maintenant, je vois même...
Dans ma famille, il y a des gens que j'adore. Plus ça va, les enfants, ils ne veulent pas les faire vacciner parce qu'ils ont peur de ci, ils ont peur de ça. Et ça moi, là, ça soulève des choses. Quoi. Parce que les gens, ils se ressentent beaucoup sur le gain pour leur famille, pour leurs enfants, etc., mais on oublie des fois le gain collectif, mais la santé collective.
C'est vrai que c'était un des arguments qui était utilisé. Hein. On ne se vaccine pas nécessairement pour soi, mais pour préserver les autres. Oui.
Oui, c'était pour rebondir sur qu'en fait, ce qui fait une société, ce qui est inacceptable, on le décide en société. Il y a le droit pour ça. Ce qui nous permet quand même de vivre ensemble et en société, c'est le droit. Et ça, ça a été décidé collectivement et ensemble. Et que sans le droit et avec un barème évaluant ce qui est ou n'est pas inacceptable, notamment, c'est un peu compliqué parce qu'on a quand même basculé depuis les attentats terroristes et les guerres récemment déclarées, que le monde a basculé un peu dans une certaine violence. Même le pouvoir étatique devient violent puisqu'il prend des décisions qui vont à l'encontre de ce qui a été décidé. Donc il y a ce droit qui nous permet d'avoir un barème de bien vivre ensemble quand même, il y a la solidarité, mais comme monsieur, dans certains contextes, dans certaines circonstances, là où il n'y a pas de droit, l'homme il n'est pas forcément beau à voir. Et donc toute cette civilisation qui s'est construite sur la règle de droit et sur, moi j'ai peu de connaissances, mais en tous les cas, ce qui a commencé à faire sens et à ce qu'on puisse vivre en société, c'est à partir du moment où le droit s'est affirmé, et où il y a des choses qui sont inacceptables, d'autres qui ne sont pas inacceptables. Et la loi est là aussi, la justice, pour aussi rappeler ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, notamment vis-à-vis de la violence.
Ouais.
On est dans une société aussi qui, voilà, où on met les curseurs sur la manière dont on va accepter ou pas un tel ou tel degré de violence, la manière dont on considère certaines choses. Je voudrais pas lancer des sujets, mais c'était juste pour rappeler que l'acceptable et l'inacceptable, on le décide ensemble.
Et j'aimerais juste rebondir en disant que le droit, en fait, il ne faut pas l'oublier, mais c'est l'Assemblée nationale qui édicte les lois. Eh oui. Oui.
Ça marche.
Non.
Ça marche pas. Il me semble simplement que l'inacceptable
ce n'est pas ce que l'on n'accepte pas, mais ce que l'on ne sait pas qu'on accepte.
Oui, mais je conçois la chose. Oui,
c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Oui.
Du coup, pour revenir sur le sujet de l'inacceptable d'un point de vue collectif, je me disais que ça pourrait être intéressant de prendre le sujet à l'envers et de se dire dans quelle mesure il y a eu des moments où on n'a pas accepté collectivement, justement aux mouvements sociaux, mm-hmm. qui a fait basculer. Par exemple, on a l'exemple des émeutes dans les banlieues ou des émeutes aux États-Unis quand il y a eu
George Floyd.
Oui, par exemple. Et du coup, il y a eu à un moment donné un espèce de point de bascule où il y a pas mal de choses qu'on n'acceptait pas, mais qui restaient et que les gens n'exprimaient pas. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, la colère qui a été emmagasinée, elle a fini par basculer. Et du coup, ça pourrait être une piste. Mais j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait quelque chose d'assez émotionnel, il y a quelqu'un, quelque chose, un événement qui a été symbolique, qui a fait que, ouais, on n'acceptait pas, mais là c'est plus possible, et là il y a un espèce de soulèvement, mais qui est plutôt de l'ordre de l'irrationnel, de l'émotionnel, que de la raison, qui a fait que, voilà, là c'était trop.
Un effet de seuil, presque, ouais. On pourrait dire en physique. Hein, voilà, on passe d'une structure de système à une nouvelle structure de système. Il y a un effet de seuil, il y a quelque chose qui se joue.
Là, on n'a pas accepté, alors que les manifestations, ça ne marche pas, peut-être le droit, ça n'a pas marché, tout ça, mais là, en fait, c'était trop, et on bascule dans une forme de violence aussi.
Ah, totalement, oui. Ouais. Avec les émeutes, oui.
Juste une remarque pour dire, il y a l'état de droit, c'est bien, mais il y a aussi une...
Par exemple, Trump
nomme juge, mais heureusement, pour l'instant en France, la justice est indépendante et pour moi, ça va avec un état de droit. C'est indispensable.
Oui. Oui. Oui, oui.
Je voulais juste. Parler d'un phénomène qui entraîne à des choses inacceptables, c'est aussi le phénomène de tout sectionner dans l'action globale. Je vais dire mon exemple. En fait, c'est Hannah Arendt, elle parlait de la Shoah et elle disait que ce qui fait qui entraîne vraiment l'action à la fin, c'est que un tel va décider de quelque chose qui va donner un ordre à quelqu'un d'autre, qui va envoyer un document à un autre, qui va envoyer ce même document à un autre, qui va le recevoir, donner un ordre à l'exécutant, et à la fin l'exécutant il dit juste j'ai écouté les ordres, en fait. Et, du coup, le phénomène de tout fractionner, voilà, c'est ça qui entraîne aussi la chose inacceptable.
Parce qu'on ne voit pas les tenants et les aboutissants, en fait. Voilà, on ne voit pas les conséquences nécessairement des actes que l'on fait. Ce qui fait que, des fois, l'inacceptable, c'est ce qu'on ne sait pas. Voilà, on peut y participer sans savoir à ce à quoi on participe.
Alors, peut-être une réaction... qui vient juste d'être dit, mais c'est quelque chose qui m'est venu en écoutant ce qu'on a dit sur le droit et sur le fait qu'il y a des choses inacceptables en société. Ça me fait en fait nuancer la question initiale, qui serait peut-être pas forcément accepter l'inacceptable, dans le sens d'une adhésion, en tout cas d'un laisser-faire, mais d'accepter que l'inacceptable existe. Quand on parle de droit et de société, par exemple, si on prend l'exemple du crime, on se dit qu'on vit dans une société qui est composé d'individus qui ne sont pas parfaits. Donc le crime, il existe. Une société sans crime, a priori, c'est peut-être pas impossible, mais très difficile à concevoir. Et donc, en droit, on se dote d'une justice, de sanctions prévues pour le crime. Donc en fait, on accepte que l'inacceptable, le crime en soi, il existe, il a lieu, mais on dit qu'on ne l'accepte, qu'on n'accepte pas qu'il se réalise en prévoyant des sanctions. Donc il y a peut-être une distinction à faire entre accepter quelque chose et accepter que quelque chose existe, mais le contester.
Mmh. Ouais. Oui. Déjà, moi, j'essaie de ne pas oublier l'enfant que j'ai été, c'est-à-dire qu'il s'étonnait de voir des clochards dans la rue et de voir la guerre, parce qu'on s'habitue après. Mmh. Maintenant, il y a eu beaucoup de progrès, il ne faut pas se leurrer. Les tortures en public sont devenues inacceptables en France. Bien, le rapport aux femmes, MeToo, ça a clairement changé, il y a un avant et un après. Ça, c'est la deuxième chose. L'illettrisme qui a été combattu. Et pour terminer, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit madame, très justement. Il y a là Gilles Deleuze qui a fait un travail. Il dit, j'aurais pas voulu être philosophe. Et mon Dieu, tout le monde sait que c'est un très grand philosophe. J'aurais fait la jurisprudence. Parce qu'il parlait de ce qui s'était passé en Arménie, qui ont été victimes d'un génocide par les Turcs. Ils s'en vont et il y a là un tremblement de terre. Il dit, c'est comme un roman de Zola. Il dit, on invoque les droits de l'homme. Alors, il critique sévèrement les droits de l'homme. Il dit, c'est nul, c'est zéro les droits de l'homme. En fait, tout ça, c'est affaire de jurisprudence. Il faut arriver à faire des lois. C'est pour ça que je parlais de René Girard, mais on peut parler de Deleuze ou d'autres gens qui ont déjà pensé tout ça. C'est-à-dire des lois, ceci, par rapport à ces lois, ne sera plus possible. Un exemple, une personne rentre chez moi, je ne sais pour X raisons, dès l'instant où il a franchi mon palier, par force, pour X raisons, il est puni. Pourquoi ? On n'a pas le droit de franchir par force. Oui, mais, il n'y a pas de oui, mais. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est terminé. Jurisprudence. Et en plus, ça change. Hein. Avant, on avait le droit de fumer dans un taxi. Il dit, maintenant, on n'a plus le droit. Ça peut changer. Mais le droit, en vérité, c'est ce que disait monsieur, on accepte l'inacceptable. Du coup, on fait des lois par rapport à ça. Parce que les droits de l'homme, on n'est pas le droit de tuer. Tout ça ne veut rien dire, en vérité. Est-ce que, bon, voilà, affaire de territoire, affaire de lois qui peuvent évoluer avec le temps.
Ils sont trop généraux.
C'est ça. Parce qu'à un moment, ça ne veut rien dire. Mon droit, alors, tout le monde peut invoquer son droit et puis on ne sort plus.
Je voulais rajouter quelque chose, ça marche là.
Non. Ouais. Sinon, il faut parler fort.
Merci. Voilà. Alors, je voulais rajouter quelque chose d'extrêmement banal, que tout le monde connaît, mais quand on emploie le langage de quelqu'un qu'on veut combattre, on le renforce. C'est pour ça que les manifestations ne marchent pas. J'en ai fait beaucoup contre les retraites, il y en a eu 6, 7, 8, 9, 10, 25, 30. Bon, ça ne marche pas. Et même quand des gens extrêmement bien structurés, comme la CGT, etc., font des grèves, etc., ça ne marche pas. Voilà.
Comme disait tout à l'heure derrière, il s'agit juste d'un rapport de force en fait. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est pas parce que ça sert à rien. C'est que parce que les rapports de force sont tellement déséquilibrés aujourd'hui que on peut ignorer les manifestations, on peut ignorer la colère populaire et imposer des décisions qui sont rejetées par la majorité de la population. Et juste pour votre, pas celle-là, mais la précédente intervention, je voulais juste dire, je ne vais pas critiquer parce que je fais pareil, je ne suis pas quelqu'un qui combat pour ses idées ou quoi. Mais je pense que les progrès sociaux, etc., c'est pas le fait des gens qui sont restés tranquillement dans leur coin sans faire de vagues, mais c'est plutôt ceux qui se sont battus pour leurs idées et pour les progrès, pour les acquis sociaux. Aujourd'hui, c'est à eux qu'on les doit. Donc, voilà, je voulais juste noter que là, c'est une minorité de gens qui se sont battus, qui ont permis aujourd'hui d'avoir ce qu'on a aujourd'hui.
Oui.
Oui.
Ou même à en mourir.
Oui.
Moi, je voudrais juste appuyer sur ce que tu as dit. J'ai pas vécu mes 68, je suis trop jeune, désolé. Mais j'ai vécu les gilets jaunes. Et je voulais demander aux gens qui avaient peut-être vécu mes 68, est-ce qu'on a envoyé des chars d'assaut avec des lances à incendie, lancer des jets sur le public avec des grenades lacrymogènes? Moi, je me demande, quand il parlait du report de force, il y a eu des tueries, évidemment. Pour moi, il y a violence et violence. Quand on met des êtres humains avec des fusils d'assaut, évidemment, le rapport de force est toujours élevé. Mais il parlait encore une fois de l'augmentation de cette chose-là. Pour moi, j'ai trouvé ça incroyable, les gilets jaunes. Si j'avais, j'avais déjà mon gilet jaune, mais j'étais au travail, donc je n'allais pas aux manifestations. Mais j'y pensais beaucoup et je me suis dit, mais il est incroyable ce mouvement, je vais en faire partie et c'est incroyable. Le problème, c'est que moi, je vois une lance à incendie sur un char d'assaut de la gendarmerie. Je me dis que je suis un délinquant, en fait, parce que c'est la gendarmerie qui me tire dessus. Et j'ai appris que les gilets jaunes, enfin que le mouvement des gilets jaunes, le seul endroit qui a résisté, c'était les petites îles de Dom-Tom, genre la Réunion, etc. Il y a des porte-avions français avec 3000 soldats qui sont arrivés, ou des choses, enfin plein de gens comme ça qui sont arrivés pour intervenir. Et toute l'île s'est liguée et ils ont réussi à résister. Ben moi, pour moi, c'est ça la démocratie.
C'est l'union ?
Tout à fait. C'est
peut-être là où on en arrive, en fait, sur accepter l'inacceptable par rapport à quel type de régime politique. Dans quel type de régime politique vivons-nous ? Ouais. Peut-être revenir tout au début. Qu'est-ce qui fait qu'une société accepte l'inacceptable ? Moi, j'aimerais bien me référer à un auteur, pas René Girard, mais Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre nous dit, en parlant de l'intolérable, en fait, pour moi, ça s'approche. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on peut tolérer ? Et qu'est-ce qui fait que ça devient intolérable ? C'est-à-dire, au final, il est où l'effet de seuil ? Et Sartre dit, mais en fait, l'effet de seuil, il est dans le fait que est intolérable, non pas ce qui serait intolérable en soi, non pas ce qui serait inacceptable en soi, mais ce que j'ai décidé de ne plus tolérer. Et je trouve que c'est intéressant, parce que ça veut dire, effectivement, qu'il y a cette capacité quand même à supporter ce qui est inacceptable, à supporter ce qui est intolérable en soi, ce que peut-être on ne sait pas être intolérable ou inacceptable, ou en tout cas ça nous paraît pas tel, et puis tout d'un coup il y a ce déclencheur qui provient en fait de la libre décision et qui fait qu'à un moment donné il y a quelque chose qui a été trop loin. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un effet de bascule. Et effectivement, ce qui était toléré devient intolérable. Je pense à l'esclavage. On a toléré, on a accepté l'esclavage pendant des millénaires. Et puis, à un moment donné, il y a eu cet effet de seuil. Et c'est une décision, pour moi, effectivement, de la volonté et de la raison. Parce qu'après, on va légiférer. Et après, effectivement, on va poser comme étant très clairement intolérable ou inacceptable ce qui, au préalable, pouvait être pensé tel, pouvait être vécu tel, mais n'était pas représenté comme tel. C'est la grande force du droit. C'est-à-dire que le droit, effectivement, il nous donne une norme de l'inacceptable, de ce que une société accepte de tolérer, ou de ce qu'une société va lourdement sanctionner, hein. Comme le crime, par exemple, voilà, ou la torture. Je trouve que la torture, c'est une bonne illustration de la chose. On torturait en place publique, et il fallait le faire parce que c'était une éducation du peuple, la torture. Voyez ce qu'il va vous arriver si jamais vous allez à l'encontre de la loi. Et aujourd'hui, on reconnaît que c'est une pratique absolument inacceptable, quelles que soient les justifications qu'on puisse en donner. Et là aussi, ça m'intéresse. Ça veut dire que l'inacceptable d'hier n'est pas l'inacceptable d'aujourd'hui. Et très certainement, aujourd'hui, nous vivons des situations qui paraîtront totalement inacceptables pour nos descendants. Et nous n'en avons pas conscience. Pour quelle raison est-ce qu'on n'en a pas conscience ? Ben, très certainement parce qu'on est sur le chemin d'une évolution qui soit civilisationnelle, mais on peut aussi penser à une amélioration morale qui ferait du droit le support de notre conscience morale et qui inscrirait dans la loi ce qu'il en est de notre état moral du moment. Donc étudier le droit permettrait effectivement d'aller vérifier quel est le niveau de moralité qu'a pu acquérir une société ou une civilisation donnée, en fait. Parce qu'il y a des grands corps comme ça, civilisationnels, qui font que les lois, même si elles changent quelques-unes entre les nations, n'empêchent que leur direction, leur directive, reste à peu près les mêmes. Donc voilà, l'inacceptable de cette manière-là serait effectivement un acte de la raison qui pose à un certain moment donné que si tout est possible, voilà, certaines choses ne doivent pas être et deviennent par là même inacceptables. Alors, du coup, qu'est-ce qui fait qu'une société, malgré tout, peut, je dirais, supporter l'inacceptable ou ce qu'elle juge inacceptable et ne pas réagir, soit parce qu'effectivement elle a réagi, mais face à elle, le déploiement du rapport de force a été tellement fort en fait qu'elle s'est tue ou qu'elle est rentrée dans les rangs. Mais là aussi, pourquoi ? Pourquoi on recule face à un char alors que certains exemples nous montrent effectivement que la cohésion de groupe peut être plus forte malgré tout que le déploiement d'un rapport de force armée extrême. Et la question est-ce qu'un État serait capable d'aller jusqu'à tuer l'entièreté de toute sa population ? Une vraie question, ça. Et paradoxalement, j'ai envie de dire, c'est la position de Gandhi. C'est la position de la non-violence. La non-violence, c'est je me dresse et je marque mon opposition. Et je la marque non pas par l'usage de la violence, la mise en miroir de la violence, mais par le fait que je m'affirme par mon nom. Et Gandhi dit, mais ne vous y trompez pas, la non-violence, ce n'est pas une théorie de la lâcheté. La non-violence, qu'est-ce que c'est ? C'est une théorie de la force morale. Ce qui veut dire que quand je me dresse, je sais que j'accepte la mort. Voilà. Et il y avait quelque chose de ça chez les résistants. Hein. Rentrer en résistance, c'était la marque même de la résistance. À partir du moment où je rentre en résistance, je dois me considérer comme étant déjà mort. Donc tout ce qui est personnel, les photos personnelles, les lettres, voire même mon nom, je dois tout détruire, je dois tout changer, je deviens un anonyme, en fait, ou je deviens un autre. Mais je ne suis plus moi, je suis mort à moi-même. Et c'est un acte absolument nécessaire pour éviter justement qu'une contrainte puisse être exercée contre moi, qu'une contrainte puisse être exercée contre mes proches. Ce qui veut dire que l'engagement dans la résistance, elle est totale, elle est radicale ou elle n'est pas. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je peux m'arrêter ? Ben, je pense qu'il y a un simple calcul d'intérêt. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que l'inacceptable est si inacceptable que ça ? Est-ce que ce que je vis ne va pas trop à l'encontre de mon confort personnel ? Parce qu'après tout, oui, les anciens se sont battus et on a eu des droits sociaux. Aujourd'hui, on nous enlève une partie. Est-ce qu'on vit si mal que ça, après tout ? Ok, j'ai manifesté, ça n'a pas marché. Ok, mais bon, hein, je rentre à la maison, j'allume la télé... C'est sympa, Netflix. Ouais. Et ça, c'est important. Exactement. On n'a pas passé le seuil. Et il y a peut-être plus que ça. C'est-à-dire, il y a peut-être la logique de l'information. Voilà. Et je reviendrai à un texte canonique, qui est le texte de Condorcet, qu'il a prononcé en 1792 à l'Assemblée nationale pour fonder... l'éducation nationale. Donc, voilà. Que doit être l'éducation nationale ? Condorcet nous dit « L'éducation nationale ne vaut que si elle a un double objectif. Premier objectif, former l'homme, l'individu. c'est-à-dire celui qui se doit de pouvoir occuper une place dans la société. Donc il faut lui apprendre à lire, il faut lui apprendre à écrire, et j'ai envie de dire, il faut lui apprendre un métier. Condorcet va dire, il faut lui permettre la réalisation de soi, c'est-à-dire le développement de toutes les compétences qui sont les siennes, qui lui ont été données par la nature, ou le développement de tous ses talents, de telle sorte qu'il puisse occuper une fonction sociale qui lui permette de vivre de ses compétences et qui lui permette, en produisant, on est bien dans la production, qui lui permette aussi d'assurer la prospérité à l'État-nation. Premier point. Donc, l'individu social. Mais il dit, second point, il faut aussi former le citoyen. Et ça me semble important dans la discussion qu'on a ce soir. C'est-à-dire, si en tant qu'individu, j'ai ma propre spécificité avec mes compétences, mes talents, la vie que je peux me choisir pour moi. En tant que citoyen, dit Condorcet, une seule chose importe, c'est qu'on développe l'esprit critique et qu'on permette à chacun d'entre nous d'avoir accès à des décisions éclairées. Parce que le citoyen dans une démocratie, c'est celui qui va aller devoir penser en amont les décisions qui vont devoir être prises pour la collectivité, parce que le pouvoir, il est au peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que citoyen, c'est moi qui fais les lois. C'est-à-dire mes représentants, ce n'est pas une décharge que je leur donne. Voilà. Mes représentants, ce sont bien ceux qui vont parler en mon nom, mais parce qu'avant, j'ai été capable de discuter, importance de la liberté d'expression. J'ai été capable de discuter, j'ai été capable d'amender, j'ai été capable d'amener des idées, j'ai été capable de me prononcer sur un sujet. Et surtout, j'ai été capable d'être averti par les experts, j'y insiste, c'est-à-dire ceux qui ont connaissance des dossiers, ceux qui bossent sur les dossiers et qui ont véritablement pour fonction ensuite de nous dire ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, quelles sont les conséquences des différentes décisions qu'on doit prendre, et de nous conseiller aussi quant aux directives que l'on doit donner aux politiques de la nation à laquelle on appartient, ou plus généralement aussi des communautés auxquelles on appartient, je pense à la communauté européenne. Donc, et sur ce statut du citoyen, effectivement, il n'y a de démocratie possible que si tous les citoyens ont le sentiment intime de leur interconnexion. C'est-à-dire, si en tant qu'individu, nous pouvons vivre séparés les uns des autres, en tant que citoyens, nous sommes fondamentalement solidaires de l'État ou de la planète à laquelle nous appartenons. Voilà. La citoyenneté aujourd'hui, elle souffre très clairement au cosmopolitisme. Nous vivons tous sur une seule et même planète. Nous avons tous en charge cette seule et même planète. Alors, du coup, qu'est-ce qui fait qu'on ne vote plus? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à manifester? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se prononce plus non plus? Cette liberté d'expression, les journaux se vendent de moins en moins, on écrit de moins en moins sur les sujets, enfin, on n'ose plus, on ne veut plus s'y intéresser. Ben, peut-être justement l'indifférence, ce dont on a parlé au tout début. Et qu'est-ce qui génère cette indifférence? Vraiment, je vous recommande un livre qui vient de sortir de Kaela Gillespie et qui s'appelle... Alors, le titre peut faire peur au départ, mais en fait, il est très clair. C'est « La manufacture de l'homme apolitique ». Et pour moi, la réponse à votre question, elle est là. La manufacture de l'homme apolitique. Ça veut dire quoi? La manufacture, en fait, c'est ce qui précédait l'industrie, hein, mais on est déjà dans une production de masse, quoi. Voilà, à grande échelle. Et que produisent nos sociétés aujourd'hui? Peut-être contre quoi on a à lutter? Ils nous fabriquent comme des individus apolitiques, c'est-à-dire en deux mots, non citoyens. Voilà. Et comment arrive-t-il à produire cet individu apolitique? En évinçant l'éducation à la citoyenneté pour renforcer celle de l'homme individuel. Voilà, qui va travailler à sa propre prospérité, à l'intérêt de sa famille, à l'intérêt de ses intérêts personnels, à l'intérêt de son gain. Enfin, voilà, qui centre l'individu sur son égoïsme, en fait, qui, encore une fois, n'est en soi absolument pas condamnable, est au fondement du système des échanges, mais qui, d'un autre côté, ne nous nourrit que de divertissement et de loisirs. Voilà, parce que vous comprenez, une journée de travail, c'est fatigant, donc quand on rentre, il faut savoir se détendre. On va quand même pas aller parler de sujets qui fâchent à l'heure du déjeuner, quoi. Donc y a un réel problème avec notre rapport à l'information qui fait qu'étant en fait non informé de ce qui est, de ce qui se fait ou de ce qui risque de se faire, qu'est-ce qui se passe au sein de la Commission européenne ? Mais j'en sais strictement rien. Lorsqu'il y a des élections européennes, quels sont les discours qui sont tenus par les autres députés ou représentants européens ? Mais on n'en sait strictement rien. Enfin, on est capable d'avoir un programme de soirée en prime time, l'Eurovision pour la chanson. Alors, l'Eurovision pour les élections, nada. Et voilà, et c'est pas le même audimat. Et du coup, parce que ça serait pas, j'ai envie de dire, rentable, on le fait pas. Sauf que, est-ce qu'on confond pas la cause et l'effet ? C'est-à-dire, après tout, qu'est-ce qui prouve que ça aurait pas le même audimat ? On suppose déjà que les individus ne sont pas citoyens parce qu'ils ne votent pas, ou on les suppose incapables de comprendre les enjeux, ce qui est pire encore, les enjeux qui sont en cours. Donc on les suppose en fait stupides. Voilà, oui, un manque d'intérêt, oui. Mais est-ce que l'intérêt, ce n'est pas aussi ce qui vient se construire et ce qui suppose une éducation à être éduqué pour ? Donc, former l'individu à être apolitique qui amène du coup aussi de sérieux problèmes dans les rapports de force. Parce que du coup, ça enlève cet esprit collectif. On n'est pas éduqué au collectif. On est éduqué à l'individuel, à l'individualisme, j'ai presque envie de dire. Et donc agir collectivement nous pose problème. Pourquoi ? Mais simplement déjà parce qu'il n'y a plus d'idéologie commune. C'est-à-dire, pour qu'il y ait solidarité, il faut bien qu'il y ait quelque chose en commun que nous désirions tous défendre et pour lequel nous serions tous prêts à nous lever et à nous unir, sans trahison interne, sans manque de confiance. Et si, c'est extrêmement dur. Qu'est-ce qui peut faire qu'un groupe est un collectif ? C'est pas simplement les affects qui relient les individus entre eux, c'est d'abord et avant tout une croyance profonde dans des idées communes. Sont où les idées communes ? Vous voyez, il est où ce projet commun qu'on pourrait avoir ? C'est extrêmement difficile. Donc, recréer du projet commun, il me semble, repasse par cette capacité que nous sommes en train d'exercer ce soir et qui me paraît fondamentale, qui est la capacité de dialogue, la capacité d'écoute, parce qu'effectivement, l'inacceptable, c'est ce qui se construit. C'est ce que nous allons décider de ne plus accepter, c'est ce que nous allons voir aussi de nos yeux, enfin, percevoir au sein du corps social, qu'il soit national ou mondial, comme ne pouvant plus être toléré, être accepté, et ce pourquoi... j'ai envie de dire une solidarité où la manifestation de notre humanité pourra s'inscrire dans un engagement politique qui était, je le rappelle, et pour finir pour Aristote, la marque même de notre humanité. Hein. Qu'est-ce qu'un homme ? C'est d'abord et avant tout un zoon politikon, un animal politique. Donc si nous perdons notre dimension politique, je pense que nous perdons d'abord et avant tout essentiellement de nous-mêmes. Voilà, merci beaucoup.